Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Avec le comédien Cyril Eldin, il s'apprête à monter sur les planches du théâtre de l'Atelier pour y incarner le rôle de Michel Rocard face à Mitterrand, rien moins. François, évidemment. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants. Et puis dans les indispensables, un célèbre dessin animé, Le Roi Lion, avec une certaine injustice à réparer, je n'en dis pas plus. Et une nouvelle série qui démarre sur Arte, ça s'appelle Une île, une série policière qui va vite plonger du côté du fantastique. Le journal de la culture, c'est maintenant avec Hélène Manarino. Bonjour Hélène, bonne année.
Bonne année Philippe, bonne année à tous.
Et on commence ce journal par de la musique. Cette année 2020 sera marquée par un retour. Quand je suis...
Vous les avez reconnus,
évidemment
Indochine, bien sûr, la voix de Nicolas Sirkis. Alors qu'après avoir enchaîné quand même beaucoup de choses en 2019, le succès de leur album 13, le 13 Tour, et bien en 2020, pas de pause, et si pas de pause, pas de démenti,
ah oui.
Philippe, évidemment, on ne vous dira pas que c'est faux. Le groupe porté par Nicolas Sirkis a publié sur le compte Instagram une vidéo de leur chanson Karma Girls, avec comme légende, rendez-vous en 2020 et 2021, nous serons là. Il s'agirait donc d'une tournée anniversaire dans des stades, notamment en 2021 pour les 40 ans de carrière du groupe déjà. Alors Nicolas Sirkis a récemment déclaré « Ce n'est pas évident de se renouveler, d'avoir de nouvelles idées. Un album, c'est comme un nouveau film, une nouvelle collection, donc une nouvelle recherche. On n'a pas encore programmé de nouvel album pour l'instant, plutôt des concerts. Même l'idée d'interpréter tout leur album sur scène, ce qui fait environ 8 heures,
ça
c'est envisagé. »
Ah c'est pas mal, une nuit Indochine.
Une nuit Indochine.
Hein, t'arrives à 20h, tu repars à 4h du matin,
voilà.
Complètement
on
fracassé.
On valide cette idée.
Un tout autre registre. Maintenant un récapitulatif des Légions d'honneur du Nouvel An.
Et pour cette promotion du 1er janvier 2020, 487 personnes ont été décorées des résistants, sociologues, anciens ministres, sportifs et dans le domaine de la culture. Les comédiennes Jeanne Balibar, Marina Hans et Chantal Lobby sont nommées chevaliers, tout comme Jean-François Chounier, président du MUCEM.
Le MUCEM, c'est le musée à Marseille.
Exactement.
Magnifique.
Et le chanteur Gilbert Montagné qui est promu officier. Alors on le rappelle, la Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle compte aujourd'hui 92 000 membres, récompensés pour leur mérite éminent au service de la nation, comme le précise la grande chancellerie.
Et puis Hélène, vous nous donnez à présent des nouvelles de Diams.
Jeune demoiselle recherche un mec mortel, un mec qui pourra me donner des ailes, un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email.
Ça nous rappelle quelques souvenirs, cette chanson, Céline Dacosta.
Je me souvenais plus des paroles.
Et nous, on les connaît,
on les connaît par cœur.
Ouais. Diams, qui a mis fin à sa carrière musicale il y a environ une dizaine d'années. Sa dernière apparition sur scène, c'était en juillet 2010. Elle voulait se consacrer à sa famille. Elle ne supportait plus la médiatisation, la notoriété. Et depuis 2 ans, elle vit en Arabie Saoudite. Alors, elle a toujours donné des nouvelles à ses fans grâce aux réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs grâce à Instagram que son public a découvert sa nouvelle passion, le design et l'architecture. Elle a lancé Home by Mel, des photos de maisons modernes, différents objets, de la décoration. Elle aurait un projet en cours à Marrakech, au Maroc. Diams, qui a aussi une marque de papeterie appelée Mel by Mel. La musique semble donc bien loin.
Oui, Mel, parce que son vrai prénom, c'est Mélanie. Triste nouvelle d'ailleurs, Hélène, pour le monde du design. Un grand nom nous a quittés.
Il s'appelle Sid Maid. Il ne vous dit peut-être rien et pourtant, on lui doit ça. Blade Runner, Alien, Le Retour, Tron ou encore Star Trek, le film, il était derrière tout cet univers. Il a créé l'univers visuel futuriste de ce film Blade Runner. Il est connu pour avoir, je cite, façonné le monde de la science-fiction. Il est décédé à l'âge de 86 ans, des suites d'un cancer du lymphome.
Et puis on termine ce journal de la culture avec un record de longévité.
Alors on vous a fait un petit cadeau, on n'en avons pas mis la chanson All I Want For Christmas Is You.
Ah parce que c'est Maria Carré.
Parce que c'est Maria Carré, ah ouais. Évidemment. Alors, elle a réussi l'exploit d'être numéro 1 de la musique sur 4 décennies différentes. Un record qui doit justement à cette chanson de Noël. Le tube sorti en 1994 est au sommet du classement Billboard Hot 100 pour la semaine du 4 janvier 2020. La chanteuse s'est empressée de réagir auprès de ses fans sur son compte Twitter d'un « Ouais, on l'a fait ». Voilà, ouais. Je le fais assez mal. Hein, ouais. Ouais. En anglais, ça donne mieux.
Vous êtes forte en anglais en plus. Ouais.
Voilà. Elle est vraiment forte tout à l'heure. Elle a dit « tron » pour « trône ». Donc vraiment, ah oui, le niveau est là.
Vous nous avez manqué, Hélène.
Oui. Ouais, voilà. L'année démarre bien. Continuez.
Le tout célébrant de la nouvelle d'une coupe de champagne à la main à la descente d'un avion. All I want for Christmas is you.
Voilà, ah, quand
merci. Même. Ah, on le passe quand même.
Mais oui, merci Nicolas. Il nous passe la chanson. A bénéficié en 2019 d'une nouvelle campagne de promotion avec une ressortie de l'album Christmas et une nouvelle vidéo.
Et la chanteuse qui a par ailleurs connu une mésaventure avec son compte Twitter.
Eh bien oui, le compte Twitter de Mariah Carey a été piraté.
Ah, mais oui, j'ai vu ça.
Par
ah,
une tierce personne. Mais en tout cas, voilà, ça suscite des réactions. L'espace de quelques heures hier, le temps de publier une série de messages à caractère sexuel ou raciste. Tous les messages ont été effacés, mais des captures d'écran ont immortalisé quelques-uns de tweets publiés par centaines sur le compte de Mariah Carey. Ce piratage pourrait être l'œuvre d'un groupe qui s'identifie sous le nom de Chuckling Squad. Ce groupe de hackers avait déjà revendiqué le piratage du compte de Jack Dorsey, PDG de Twitter, l'été dernier. Comme sur le compte de Mariah Carey, d'ailleurs, les hackers avaient publié toute une série de messages insultants et racistes.
Oui, et je ne vais pas traduire, mais elle avait écrit « Eminem has a little penis ». Merci beaucoup, Hélène Manarino.
Voilà, c'est dit. À tout à l'heure.
C'est dit, c'est pas vrai, on n'en sait rien.
Mais on n'en sait rien, en tout cas nous, on ne le sait pas.
Ouais. C'est pas de réaction sur le sujet.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et on est très heureux, Philippe Vandel, d'accueillir Cyril Heldin dans Culture Média.
Bonjour Cyril Heldin.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes journaliste, en tout cas on vous a connu comme ça, humoriste, comédien. Le grand public vous avez découvert sur Canal, dans Le Grand Journal, puis Le Petit Journal de Yann Barthès. Émission que vous aviez ensuite présentée une saison. Vous ne changez pas de vie, mais vous revenez à votre premier métier, comédien. Vous serez à l'affiche de la pièce L'Opposition au Théâtre de l'Atelier. Ça sera à partir du 14 janvier. L'Opposition, normalement, c'est entre la droite et la gauche. Mais là, ils sont du même parti. Oui. Ils sont au Parti Socialiste. C'est quoi cette opposition ?
Eh bien, c'est l'opposition entre François Mitterrand et Michel Rocard. Ouais. Ça, bon, on le sait quand même qu'il y avait beaucoup de tensions entre les deux. Ouais. Donc, c'est Michel Rocard qui, en 1980, s'apprête à être candidat pour la deuxième fois, vu qu'il a déjà été candidat en 69. Il a l'opinion avec lui, ses idées, on le vend en poupe, et il a son mouvement, mais il modernise vraiment le Parti Socialiste. Et il vient voir Mitterrand rue de Bièvre en lui disant qu'il s'apprête à annoncer sa candidature et qu'il aimerait bien le soutenir.
Rue de Bièvre, c'est le domicile de François Mitterrand.
Voilà, rue de Bièvre, ouais. Oui, alors on le savait à l'époque. Ouais, ouais. Il avait habité rue Guinemer et là il habitait rue de Bièvre. Et donc il vient le voir, il cherche son soutien, il lui annonce sa candidature. La suite, on la connaît, on sait que c'est Mitterrand qui a été élu, mais l'échange qu'il va avoir entre les deux, entre le mystique et puis un Rocard qui est beaucoup plus pragmatique, qui est très concret, qui veut faire avancer ses idées. Un politologue qui peut avoir l'air plus cynique, enfin un politicien qui est Mitterrand, et un Rocard enthousiaste, convaincu, ben ça fait une belle opposition, oui.
Est-ce que cette rencontre a eu lieu pour de vrai ?
Oui, elle a eu lieu. Elle a eu lieu et la plupart des échanges qu'il y a entre les deux ont été, si vous voulez, là ils vont être sur une heure et demie, mais ils ont été dits par les uns, par les autres, dans le dos des uns et des autres, mais elle a eu lieu. Et il se passe plusieurs choses dans la pièce qui retranscrivent, parce qu'à un moment, Rocard est assez fébrile, et Mitterrand était allé le voir quelques mois plus tard, et ça s'est condensé sur une heure et demie.
D'accord. L'enjeu est le suivant, vous l'avez dit, c'est qui va se présenter. Dès le début de la pièce, Mitterrand est au téléphone avec quelqu'un, et dit qu'il rencontre Rocard, je cite, à la demande de Jacques Attali. Ça paraît invraisemblable que deux personnes d'un même parti ne se parlent pas ? Ou est-ce que ça aussi c'est authentique ?
Ah ben ça aussi c'est authentique. Tout le monde savait que Mitterrand ne supportait pas Rocard. Rocard, il n'était pas lui dans la haine. Il essayait de chercher le soutien de tout le monde, mais je crois que les hostilités avec...
Non, je ne parle pas de la même chose. Ah. On peut ne pas supporter. Il y a des gens d'un même parti qui ne supportent pas, mais ils se voient tous les jours. Des haines recuites dans des partis, je ne vais pas revenir jusqu'à Chirac et Balladur, mais ça a toujours existé. Ce qui m'étonnait, c'est qu'ils ne se parlaient jamais. C'est ça qui m'étonne.
Oui, mais Mitterrand était premier secrétaire à l'époque et puis il était déjà assez inaccessible. Il était peut-être président dans sa tête depuis toujours et il avait un peu de mépris pour ceux qui ne venaient pas de son sérail, ses amis. Et donc pour Rocard, c'était peut-être pas facile vu qu'il pouvait lui faire de l'ombre. Il était l'ennemi potentiel, celui qui créait son mouvement, qui modernisait, je le redis, vraiment la gauche. Il devait le tenir à distance.
Puisque vous parlez de mépris, Mitterrand a la dent très dure contre Rocard. Exemple, Rocard lui demande « Mais pourquoi avez-vous autant de mépris pour moi ?» Réponse de Mitterrand, du mépris, mais je n'ai aucun mépris pour vous. Le mépris, ça se mérite.
Oui, alors ça, c'est à l'issue de quelques tensions et quelques répliques, c'est horrible. Ouais. Il y en a quelques-unes comme ça,
Mitterrand,
ça va être très cinglant.
Mais alors oui, Mitterrand, il parle d'une rue à son nom. Et Mitterrand dit non, vous n'aurez pas de rue à votre nom. Il dit à la limite une impasse. Voilà. Mais blague
à part. Et Rocard lui répond ce trait d'esprit était facile. Il y a un crescendo entre les deux.
Oui, mais alors je vais vous demander ça. Pourquoi les traits d'esprit viennent de Mitterrand? Il y en a très très peu dans votre personnage. Rocard n'avait pas d'esprit ou c'est l'auteur de la pièce qui est Mitterrandolâtre?
Ben c'est qu'il y avait une vraie différence entre les deux. Rocard, il est peut-être plus concret, donc plus premier degré. Il se soucie réellement des Français. Il arrive avec des idées, un programme. Et il n'est finalement pas dupe, c'est-à-dire qu'au départ il cherche du soutien, donc enthousiaste, il cherche l'adhésion de Mitterrand, et il tombe des nues devant le cynisme, devant la maîtrise du silence de Mitterrand qui mettrait mal à l'aise Rocard.
Ouais, enfin, il est même mal à l'aise, oui et non, parce qu'en 5 minutes de dialogue, ils ont déjà pris 2 verres de blanc. Ça boit beaucoup dans cette pièce. Est-ce que c'est authentique?
Ah, je pense. En tout cas, c'est très bien écrit et très bien amené parce que Rocard était assez. Je crois qu'il avait des problèmes un peu aux reins. Il pouvait faire de la goutte et tout. Donc Rocard le fait. Mitterrand le fait boire. Il lui donne du blanc parce qu'il y a de l'acide urique et pour le fragiliser peut-être. On a l'impression que tout ce que fait Mitterrand est un coup de vis pour déstabiliser Rocard.
L'auteur de la pièce, c'est Georges Naudy. Oui. C'est une pièce contemporaine. Vous ne l'avez pas demandé? Vous lui avez demandé comment il avait travaillé? Que vous préfériez ne rien savoir?
J'ai essayé d'en savoir le moins possible, mais ce que je sais, c'est que c'est un personnage, c'est la première pièce qu'il écrit et qu'on va jouer, mais d'assez mystique. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'attirance pour Mitterrand à la base. Et beaucoup d'admiration, mais ce qui est bien dans l'évolution de la pièce aussi, c'est qu'on dépasse un peu tout ça. On comprend peut-être un peu plus à la fin aussi pourquoi Mitterrand, finalement, a été le candidat. Ce n'est pas que du cynisme ou du machiavélisme. Certes, c'est un monarque, mais il incarne aussi la France, alors que Rocard était vraiment concentré sur ses idées.
Puisque je rebondis sur le mot que vous venez de dire, mystique, vous dites avoir un lien quasi ésotérique avec cette pièce, c'est-à-dire?
Ah ben c'est à titre personnel, moi qui interviewe les politiques depuis 10 ans et qui les côtoie, j'ai interviewé Rocard 1 ou 2 fois. Moi, dans mon évolution personnelle, j'avais un père qui était très très rocardien. Donc j'ai grandi avec Rocard émerveilleux et tout, puis il avait pas mal d'amis à droite, donc je le voyais se fâcher avec tout le monde en défendant son Rocard. Ouais. Et petit à petit, j'ai croisé des gens qui avaient une passion pour Mitterrand, et c'est vraiment deux personnages, moi, qui ont marqué toute ma vie. Quoi.
J'ai compris tout ça, je vois pas ce que c'est ça d'ésotérique.
Ben, c'est-à-dire que ça me tombe dessus comme ça, d'un coup, qu'on me propose cette pièce, le rôle de Michel Rocard, avec deux personnages qui m'ont autant fasciné, l'un par mon père, l'autre par mon oncle, qui était fou de Mitterrand. Je me dis, oh, ces deux personnages sont tellement incroyables que, oui, il y a quelque chose qui nous échappe, qui vient de l'au-delà. Pourquoi Rocard m'arrive un matin à moi? J'avais déjà joué Balladur, j'étais pas si évident comme ça dans le rôle de Rocard. En plus, c'est un personnage très pragmatique. Moi, à titre personnel, j'aime bien jouer des personnages qui peuvent être plus sinueux, qui peuvent être plus dans l'humour, le second degré. Et c'est un vrai challenge de jouer ce personnage qui est un type bien en plus. Plus je découvre Rocard, plus je trouve qu'on en manque aujourd'hui.
Et si je suis bien informé, ça va même plus loin, ça va presque jusqu'au cimetière en Corse.
Oui, parce que moi, je viens de Monticelle, je suis originaire de ma grand-mère était de Corse.
Mais je vois très bien où il est, c'est le village de Jacques Dutronc.
C'est le village de Jacques
Dutronc. Au-dessus de
l'Île-Rousse. Voilà. Donc j'ai ma famille, j'ai aujourd'hui, hélas, mon père, mon frère qui sont dans ce cimetière. Et j'ai appris que la femme de Michel Rocard vivait là-bas, que ses cendres sont là-bas, et juste à côté de mon terrain. Donc moi, j'ai un terrain juste à côté du cimetière que j'avais acheté parce que c'est là qu'était ma famille. Et maintenant, j'ai carrément Michel Rocard. Donc au bout d'un moment, quand arrive le rôle de Michel Rocard, on se dit, c'est un cadeau qui vient d'ailleurs que du concret, là, ça vient du ciel. C'est Mitterrand qui reconsidère un petit peu Rocard après sa mort.
Vous restez avec nous?
Oui.
Il s'appelle Cyril Aldin, il est bien vivant.
Oui, c'est notre invité ce matin. Dans un instant, vous allez le découvrir comme jamais. C'est le retour du portrait inattendu d'Hélène Manarino, le premier de cette année 2020. Et il est pour vous, Cyril Aldin. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Cyril Aldin, vous connaissiez Hélène Manarino?
Oui.
Ah bon, ne faites pas cette tête, c'est pas grave.
Mais ne soyez pas inquiets, tout va bien. Bonjour Cyril Aldin.
Bonjour Hélène.
Alors je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous après une longue enquête, encore plus intense qu'une finale de l'US Open, qui se cache derrière le petit dernier d'une grande fratrie, celui que l'on l'a longtemps nommé Pipou.
Ça rime pas du tout.
Non, pas du
c'est ridicule.
Je sais toujours pas pourquoi Pipou.
Non, on s'appelle Pipou quand on s'appelle Philippe, mais pas quand on s'appelle
Parce
Cyril.
Parce que c'est le dernier de la famille, donc Pipou, d'accord, ça fait un petit, je sais pourquoi, d'accord, moi. Ah. Et qui ne jure presque que par un seul homme, le tennisman McEnroe.
Fort! Le génie à l'état pur.
Le tennis, Cyril Eldin, votre plus grande passion, grâce aux deux plus grands joueurs du set de votre vie, vos grands frères. Ils vous entraînaient en permanence, vous rapportez sans cesse des gobelets de vos joueurs préférés, de Roland Garros. C'est vrai ?
C'est incroyable de savoir ça.
Mais il fallait vous gérer. Parfois, comme ce jour où un tournoi de tennis était organisé, vous étiez très bien placé, vous étiez en train de gagner votre match. Les deux premiers sets étaient pour vous, sauf que pour le troisième, vous avez décidé de faire n'importe quoi et de faire rire les gens plutôt que de gagner une belle balle de match. Donc c'est un match que vous avez perdu. Mais finalement, cela vous résume assez bien. Vous démarquez, faire rire, blaguer, mais surtout, votre meilleur coup droit, ce sont les imitations. 7 gagnés assurés, comme sur votre meilleure terre battue, une plage en Corse. Vous regardiez la finale de Roland-Garros en 1976. Et une fois la finale terminée, vous avez couru sur la plage pour refaire tout le match, mais tout seul.
Non.
Et vous aviez 6 ans.
Du air tennis.
Du air tennis, à l'âge de 6 ans.
J'imitais pas Natasha plongée sur le sable.
Ouais. Voilà, vous avez reproduit à l'identique les mimiques de vos champions, évidemment, et les différentes actions. Alors, imitateur, mais votre terrain de jeu est beaucoup plus large que le tennis, évidemment. On peut citer Fabrice Lucchini, Louis de Funès, le sketch du député maire de Join-la-Ville d'Alex Métayer, évidemment, vous connaissez par cœur.
Mais vous avez passé les vacances avec ma mère, faut tout me dire.
Mais surtout, imitateur hors pair du moonwalk de Michael Jackson. Michael Jackson, un peu votre idole. Alors ce moonwalk que vous avez reproduit lors du mariage de votre frère, et puis continuer de faire rire aussi, taquiner sans limite, jusqu'à imiter tous les personnages de la famille aux 60 ans de mariage de vos grands-parents.
Wow.
Vous avez 18
ans. Oui.
En terminant.
J'avais réglé mes comptes.
Exactement.
Festen.
C'était Festen, c'était un peu ça.
En terminant par une chanson très émouvante qui disait « Au-dessus du pont, tout au-dessus du pont, il y a papa bon, il y a mamie qui s'aime comme au premier jour et en dessous du pont, tout en dessous du pont, l'enfant, donc vous, pleure tout bas, il aimerait bien rencontrer l'amour comme celui-là aussi.
» Oui, non, ça met bien l'ambiance, hein. On sent le mariage. On sent l'anniversaire.
Et bonne année, Cyril.
Ouais,
alors, pas de faute de ce côté-là. Votre sensibilité vous a souvent fait gagner et même parfois rater l'école. Vous avez demandé une journée de deuil à l'âge de 8 ans quand votre hamster est mort.
Oui, Juliette. Oui.
Ouais. Et vous l'avez eu cette journée. Vous n'êtes pas allé à l'école.
La semaine.
Et je précise. C'est moi, je regarde Eldin et je rigole. Mais lui, il rigole pas du tout. Son hamster vient de mourir à nouveau.
Mais oui.
Il est encore triste.
Vous avez...
Non, ça y est, il rigole. Ouf, on l'a récupéré.
Vous avez été capable aussi de sortir de la voiture de vos parents pendant qu'ils conduisaient pour exprimer votre refus d'être dans une école stricte. Vous y avez passé quelques jours et vous avez été traumatisé.
C'était pas si bien, oui, j'avais sauté de la voiture à un feu rouge.
Exactement, pour dire je ne veux pas y aller.
Feu rouge. Hein.
Mais Cyril Eldin, vous êtes doté d'une répartie folle, il faut le dire. La balle, vous la renvoyez tout le temps, incollable sur toutes les citations philosophiques. Vous connaissez toutes les fables de La Fontaine par cœur.
Oh, non,
et quand on vous pose une question simple comme « À quelle heure on se voit demain ?», vous répondez avec une phrase de Céline ou Rabelais. Bon, qui va comprendre.
Ah bon, c'est vrai.
D'ailleurs,
non, pas vrai.
Si, c'est vrai.
D'ailleurs... C'est très exagéré. Non, on se voit à quelle heure demain ? Midi. Je peux être simple aussi. Surtout depuis que je vis chez le Rocard, je vais à l'essentiel.
D'ailleurs, cette passion pour la littérature, la philosophie, les textes théâtrales, vous l'avez associé à la guitare de votre cousin, grand guitariste de flamenco. Et à la fin des années 1990, vous vous êtes produits tous les deux dans la rue, à Avignon. Lui, il jouait de la guitare, vous énonciez quelques grands textes. Personne ne vous donnait d'argent, mais vous avez décidé...
Dès que vous me taisez qui jouait de la guitare, il remplissait. C'était
exactement.
Très humiliant.
Voilà.
On a démarré par une énorme humiliation. Je faisais des fables avec de... On se disait, c'est original. Et puis, tout d'un coup, je me dis, je me tais, joue. Et paf, les gens arrivaient, mettaient plein de pièces. Alors je lui disais, on fait moitié-moitié, toi tu joues, non. Moi je me tais. C'est honnête.
Voilà, c'était la fin de l'anecdote. Alors des obsessions philosophiques, oui, mais musicales aussi. Quand vous aimez une chanson, vous l'écoutez en boucle, puis plus du tout, puis vous passez à une autre. Et en ce moment, Cyril Eldin, il y a ça.
De ton envie qu'elle reste ici, de ta colère qu'elle se décide.
Qu'est-ce que c'est ?
J'attends
Ben Mazuet
et
en
Pomme.
Duo avec Pomme, oui.
Exactement. Mais c'est pas tout, il y a ça aussi.
Beaucoup beaucoup d'émotions dès le 2 janvier. Oui,
ah oui, pourquoi beaucoup d'émotions? C'est quoi cette chanson dite?
Bah, c'est une chanson, chanson d'amour. Voilà.
Et c'est de qui?
Non, c'est
Michael Kiwanuka.
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 Oh non.
Voilà. Cold Little Heart. Alors, quelle sera la prochaine mystère? En attendant, oui, vous ne vous arrêtez jamais comme un sportif de haut niveau. Rien d'étonnant que votre livre de chevet soit le pouvoir du moment présent, évidemment. Mais cette caractéristique vous a valu plus jeune des remarques de votre grand-père qui vous demandait en permanence de vous calmer ou même de vous taire. Mais c'était hors de question. Un petit garçon qui a toujours voulu reproduire les bêtises de ses grands frères. Et parfois, voilà, comme tout petit dernier d'une fratrie, vous avez été pris à votre propre jeu puisqu'ils ont décidé de vous enfermer dans un box avec un poney nommé Grisette.
Oh, et depuis... C'est énorme, j'étais traumatisée.
Et voilà, vous avez la phobie des chevaux, exactement.
Ils ont fermé le box, ils m'ont mis sur un double poney qui a fait un pas, le pauvre, mais je suis tombé, j'avais quatre. Et dans le foin, deux poneys qui m'ont juste reniflé, mais pour moi, ils allaient me manger. Après, je pouvais plus aller, j'ai jamais monté. J'ai même été allergique maintenant. Il y a un cheval, à 7 km, j'ai les yeux qui gonflent et tout.
Ouais. Alors, cette insouciance, cette liberté, elle peut vous manquer aujourd'hui. Heureusement qu'au mois d'août dernier, il y a eu cette séance de cinéma en plein air en Grèce. Film diffusé, le préféré de votre fils, le Roi Lion. Vous êtes en famille, problème, plus de place. Vous ne vous êtes pas laissé abattre, vous avez sorti votre tactique, vous avez grimpé sur le toit d'une maison, ce qui était totalement interdit pour regarder le film. Votre réaction, regarder votre frère et lui dire merci de me faire revivre tout ce que l'on faisait petit. Alors les bêtises, l'enfance, d'accord, mais Cyril, vous êtes comme un vrai sportif, vous avez des habitudes, votre application qui vous permet de faire 7 minutes d'étirement par jour, votre régime alimentaire, les quenelles, mais surtout le tarama, évidemment. Alors Cyril, il est l'heure de la balle de match, je vous la laisse évidemment en terminant par une citation philosophique que vous aimez particulièrement. Je n'écris pas ma vie, je regarde ce qu'elle m'écrit. Alors pour le moment, elle vous fait gagner.
Ah bah oui, quand on dit oui. Merci beaucoup.
Merci Hélène.
Ça, c'est...
Les applaudissements.
Comment vous avez eu toutes ces infos? On en parle après?
On n'en parle jamais.
Mais vous restez quand même avec nous, Cyril Eldin.
Oui,
Cyril Eldin est notre invité dans un instant avec lui. On découvrira nos indispensables du jour sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et avant Philippe de découvrir nos indispensables du jour avec Margot Barallon et Clément Le Saffre, on continue à parler de l'actualité de notre invité Cyril Eldin qui est à l'affiche de la pièce L'opposition Mitterrand contre Rocard au Théâtre de l'Atelier, ça sera à partir du 14 janvier.
Comment vous avez abordé le rôle? Je veux dire par là, est-ce que vous avez lu beaucoup de choses et revu des émissions de télé, des documentaires, ou au contraire non, vous êtes seulement attaché au texte?
Je me suis seulement attaché au texte parce que je trouve que ce que ça raconte est incroyable et qu'il se suffit à lui-même. Alors là, pour le coup, les personnages peuvent disparaître derrière parce que, en fait, c'est assez récent, c'est des propos qui ont été dits, donc la tension est réelle. Et puis surtout, faut pas du tout céder à l'imitation de Rocard, faut pas céder trop
à sa diction.
Moi, vu que j'ai des tendances à l'imitation naturelle et que Rocard a un débit très particulier, au contraire, j'ai lu des choses sur lui, j'ai lu un bouquin, j'ai essayé de le rencontrer un peu plus, un livre de Jean-Paul Huchon notamment. De proche de lui, mais j'ai pas regardé d'images de lui ou de vidéos.
Et vous n'imitez pas son ton particulier. Je veux dire pourquoi je vous en parle, parce que c'est une pièce entre Mitterrand et Rocard, et on dit que ça exaspérait Mitterrand, le ton très particulier de Rocard. Donc si on le fait pas, on perd quelque chose. Pardon de donner mon avis.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a forcément une
je
diction.
Précise
il y a un
aux débit. Auditeurs, je précise aux auditeurs que j'ai lu la pièce, mais que je ne l'ai pas vue.
Mais c'est normal, elle a pas.
Voilà.
ce qu'il y a, c'est que Mitterrand était exaspéré par tout ce que disait Rocard. Quand j'ai des longs monologues sur l'économie, ça n'intéresse pas Mitterrand l'économie.
Moi non plus, j'ai tourné la page.
Voilà. Et lui, il essaye de se passionner de ça. Alors forcément, il a un débit. Il dit des choses qui sont passionnantes en rentrant dans le détail sur justement le fait que la Banque de France prêtait à l'État gratuitement jusqu'en 1973, jusqu'en 1974, sans intérêt. Et donc, il anticipe, et il est assez lucide d'ailleurs, on se dit après coup que Mitterrand a fait n'importe quoi aussi économiquement quand il est arrivé au pouvoir. Donc, ils auraient pu être complémentaires. Et tout ce que Rocard utilise d'arguments pour essayer de convaincre Mitterrand le saoule déjà. Alors après, le débit, c'est vrai que j'ai des monologues sur, en effet, l'économie, la Banque de France, et puis il lui en met beaucoup. Il fallait rééquilibrer aussi le rôle de Rocard, qu'il ne se fasse pas complètement manger par Mitterrand, donc il va lui balancer tout dans la gueule. Des choses qu'on aimerait bien comprendre sur sa position en Algérie quand il était ministre de l'Intérieur, Mitterrand, sur la franchise, sur les faux attentats en 59. C'est pour ça aussi qu'au bout d'un moment, Mitterrand craque. qui lui dit le mépris, ça se mérite. Voilà. Rocard se défend, c'est-à-dire que la tension, elle est permanente.
La Francisque, là aussi, je le dis pour les plus jeunes, c'était une récompense du gouvernement de Vichy qu'on a beaucoup reproché à François Mitterrand.
Ben oui, parce qu'il a travaillé, il a occupé un emploi dans le gouvernement de Vichy, alors que Rocard a toujours été à gauche. Et finalement.
Et avant d'être résistant. Parce que, bon, faut pas, non, mais il ne faut pas s'arrêter là sur François Mitterrand, parce que sinon, ce n'est pas le personnage.
Oui,
avant
c'est
d'avoir
vrai,
été. C'est pour ça que c'est un personnage extrêmement complexe. C'est une pièce contemporaine, je l'ai dite, écrite par Georges Naudy. Dans une interview, vous dites « Cette pièce échappe clairement à son auteur. C'est beau comme du Duras, mais qu'est-ce que ça veut dire ?»
Ben, quand j'ai parlé justement avec l'auteur, il me disait que quand il avait écrit, il me disait « La main est inspirée parfois, il y a tout qui lui revenait. » Certes, c'est un travail très appliqué parce qu'il y a des vraies citations, mais il me dit « La main, elle est tout seule. » Et vu la passion qu'il a pour Mitterrand, et Mitterrand qui disait « Je crois aux forces de l'esprit », je pense que pour l'auteur, il y a quelque chose d'assez mystique dans son rapport à l'écriture de cette pièce.
Ça pourrait devenir une série ?
Ah non.
Bon, bah, merci pour l'enchaînement. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour.
Bonne année.
Bonne année.
Parce qu'on va parler de série, Margot. Et vous nous parlez d'une série française, monsieur, une série produite par Arte.
Ça s'appelle Une île et au premier abord, ça ressemble à une série policière. Nous sommes sur une île, donc, où la plupart des gens sont pêcheurs, sauf qu'un jour, un chalutier disparaît.
On a reçu un appel des insulaires. Les gardes-côtes ont signalé deux disparitions inquiétantes. Des pêcheurs. Ils ont trouvé une femme à bord. Dans la cale. Pas de vêtements, pas de papier d'identité. C'était peut-être une migrante ou un trafic.
C'est donc là que commence une enquête pour retrouver les pêcheurs disparus, évidemment, mais aussi déterminer qui est cette femme mystérieuse interprétée par Laetitia Casta. Un policier vient du continent pour prendre les choses en main et il se trouve que cette femme, il la connaît déjà très bien.
La femme que vous avez trouvée sur le bateau, c'est pour elle que je suis ici. Je la traque depuis 10 ans. 17 victimes présumées sur 5 pays. Toujours le même mode opératoire. Victime de sexe masculin, pas de traces de coups ou d'empoisonnement, pas la moindre blessure et du sel sur la lèvre.
J'adore sa voix, c'est pas lui qui jouait dans Harry, un ami qui lui vaut du bien.
Si, bien sûr,
comment
c'est Sergi Lopez.
Ah, j'adore.
Donc, pas de traces de coups, pas de blessures, du sel sur les lèvres, tout cela est bien mystérieux et ça vient bouleverser, on s'en doute, hein, la vie sur l'île, notamment la vie de Chloé, une jeune fille un peu bizarre elle aussi. Elle a été retrouvée quand elle était enfant, abandonnée dans une grotte. C'est elle, le personnage principal de la série. Donc, toute l'intrigue, ça va porter à la fois sur les meurtres et sur cette jeune fille.
Mais comme vous l'avez dit, ça ressemble à une série policière, donc j'imagine, je vous connais, qu'il y a plus que ça.
Et oui, parce qu'en fait, très vite, on va plonger du côté plutôt du fantastique. On comprend dès le début, dès le premier épisode, que la femme qu'on a trouvée sur le bateau et que tout le monde va se mettre à chercher après, n'est pas tout à fait normale, pas tout à fait humaine en fait. Mais surtout, il y a beaucoup plus qu'une enquête dans cette histoire.
C'est-à-dire, comment ça ?
Bah, je ne vais pas vous raconter évidemment, ah ben mais non. Derrière l'intrigue, il y a une métaphore qui est assez bien vue sur les relations de l'homme à la nature, comment il a cessé de la respecter et comment elle va finir par se venger. En fait, c'est une série écolo et malgré le côté fantastique, c'est très ancré dans la réalité. Donc l'île du titre, elle n'est jamais nommée, mais enfin, il n'y a que des petits villages où tout le monde se connaît, où on veille les morts avec des chants polyphoniques. Ça ressemble quand même.
Ah ouais, ça ressemble à la corde. C'est le village de Cyril Eldin. C'est le village de Pipou.
Ça pourrait être Corse. Pipou.
Ouais.
Donc évidemment, ça ressemble à la Corse. D'ailleurs, la série a été tournée là-bas et justement, elle montre à la fois la beauté de l'endroit et puis les difficultés économiques, environnementales, puisque tout cela se déroule sur fond d'une crise de la pêche. Et il y a aussi cette espèce de paradoxe des insulaires qui est très bien rendu avec une jeune génération tiraillée entre l'attachement viscéral à sa terre et puis l'envie aussi de s'en échapper pour élargir ses horizons.
On s'est engueulé ce matin. Je pense que je vais pas vraiment foutre le camp d'ici.
Il a pas raison ?
Bien sûr que non, je veux partir. Mais... J'ai toujours voulu partir. Jusque-là, c'est pas bon, c'est tout.
Alors Margot, vous citiez Laetitia Casta, c'est la première fois qu'on la voit dans une série ?
Oui, elle avait fait quelques téléfilms, mais là c'est vraiment la première fois qu'elle joue dans une série proprement dite. Un rôle très intéressant d'ailleurs, parce qu'elle ne parle quasiment pas une ligne de dialogue.
Ah,
en revanche, je vous ai dit, c'est une femme très bizarre, pas tout à fait humaine, et donc elle a beaucoup travaillé sur sa démarche et sa façon de bouger avec une célèbre chorégraphe, Blancali. Le résultat est assez impressionnant, hein. Laetitia Casta habite vraiment le rôle. Donc on retrouve Sergi Lopez, je vous le disais tout à l'heure.
Je vous ai spoilé, mais j'aimerais mieux la voir.
Dans la peau de l'enquêteur, Et puis du côté des têtes pas encore très connues, mais qui vont le devenir à mon avis, il y a Noé Habitat qui joue Chloé. Alors elle, c'est une jeune actrice qu'on a vue dans plusieurs films récemment, notamment Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Et pour lui donner la réplique, Alba Belloudji. Alors elle, vous l'avez peut-être vue si vous regardez Le Bureau des Légendes, puisque c'est la fille de Mathieu Kassovitz dans Le Bureau des Légendes.
Et alors vous avez dit que c'était sur Arte. Quand est-ce que ce sera diffusé?
Alors Une île, c'est disponible dès aujourd'hui sur Internet, sur arte.tv. Et si vous voulez la voir à la télévision, ce sera jeudi prochain et le suivant en prime time.
Cyril Eldin, ça vous tente?
Ah bah oui, on va regarder.
Ouais. Et vous avez des projets de série ou pas du tout?
Non, pas encore.
Comment ça se fait? Comment ça pas encore? Donc vous savez que ça va venir?
Non, j'aimerais. je lance un appel.
Vous lancez un appel.
Mais j'ai une émission qui est Les Reporters du Dimanche sur Canal et c'est une série chaque semaine. Ouais. On écrit sa petite série. Moi, je fais mon scénario, je suis assez libre. J'ai mes deux acolytes, David Castello-Lopez et David Greuze, et je m'amuse bien avec ça.
Vous êtes fan de jeux vidéo?
Non, mais j'ai des enfants qui le sont et qui m'y
poussent.
Alors,
vous savez quoi? Dites-leur qu'ils restent. J'imagine qu'ils nous écoutent parce qu'il n'y a pas école. Et dites-leur qu'ils restent, qu'il y a Clément Le Saff qui arrive.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Cyril Eldin qui est notre invité ce matin dans Culture Média. Philippe, il est à l'affiche de la pièce L'Opposition Mitterrand contre Rocard. Ce sera au Théâtre de l'Atelier à partir du 14 janvier. On va en reparler dans un instant. Avant, on continue à faire le tour de nos indispensables du jour avec Clément Le Saffre.
Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et la bonne année.
Bonne
et
année
vous
également.
Nous parlez pas ce matin d'un jeu vidéo, mais d'un film connu et même très connu.
Mufasa, Simba.
Avant les réactions, ouais, ça fait toujours quelque chose d'entendre cette petite musique. C'est la splendide ouverture du Roi Lion, bien sûr. On a pu la revivre cette année au ciné dans le remake du dessin animé. 10 millions d'entrées, c'est le film le plus vu cette année, un gros carton. Donc bravo à Disney. Mais moi, je suis pas là pour parler de Disney, je suis là pour rétablir une certaine justice.
Zorro.
Parce que je suis un peu le Zorro ce matin. Le Roi Lion est considéré par beaucoup de monde comme le meilleur film d'animation de l'histoire. Ça se tient, c'est un très grand film, sauf que pour concevoir ce grand classique, Disney n'a pas hésité à pomper des idées à droite et à gauche, voire à plagier.
Comment ça, racontez-nous?
Disney n'a jamais caché qu'il s'était beaucoup inspiré du Hamlet de Shakespeare, mais le studio aux grandes oreilles a longtemps caché en revanche une autre source d'inspiration, ça s'appelle Le Roi Léo, c'est un manga japonais des années 50 imaginé par Osamu Tezuka, et c'est ce manga que je vous conseille aujourd'hui. Alors un mot sur son auteur, pour commencer, Osamu Tezuka. Je vous en avais brièvement parlé avant Noël dans ma sélection de mangas. C'est un écrivain et dessinateur japonais qui est surnommé le dieu du manga. Rien que ça, c'était un génie. Il a créé plus de 700 œuvres originales à la fin des années 40 à peu près, jusqu'à sa mort en 1989. Les plus connus, ça va vous parler peut-être, c'est Astro Boy, le petit robot, et Princesse Saphir. Voilà, c'était des grands moments du Club
Dorothée. Et Astro Boy qui est devenu un morceau de R.
Exactement.
En plus, si je me souviens bien.
Devenu un grand moment de la pop culture.
Et donc, Le Roi Léo.
Exactement, ça c'est son premier gros succès. Donc ça se passe entre 1950 et 1954 au Japon. Donc, c'est un manga, on y suit les aventures de Léo. C'est un lionceau blanc, son père a été tué par un chasseur et lui a été capturé par les hommes. Léo va devoir s'échapper pour revenir prendre les rênes de son royaume. Par la suite, Le Roi Léo a été adapté en film, en dessin animé, c'est passé sur la 5 dans le Club Dorothée, les mini-cums, bref, un vrai classique. Et je vous ai même exhumé, écoutez ça, le générique de la version française de 1990 du Roi Léo, c'est pas triste.
Je suis Léo, petit lion de l'Afrique, je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis.
J'adore. Voilà, et donc tout au long de la série,
le téléphone, moi je vois le téléphone du batteur.
On ne voit pas Léo danser,
il met tout ce qu'il a.
Donc Léo, il grandit, il affronte ses ennemis, notamment les humains, pour devenir un roi bienveillant.
Mais la ressemblance n'est pas non plus très 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 frappante avec le Roi Lion aussi?
Eh bien, parce que c'est pas l'histoire que le Roi Léo a pompé, ça c'est le Hamlet pour le coup pour l'histoire, mais sur l'univers, eh ben, Disney a tout pris sur les personnages, notamment Léo. C'est un jeune lion au grand cœur qui ne mange pas de viande, comme Simba, c'est quand même pas banal pour des lions.
Ah non.
Il doit reprendre le trône à un usurpateur, un vieux lion borgne et cruel. Alors ça, c'est complètement Scar. Et puis, pour ça, Léo, il est conseillé par un oiseau bavard et un vieux singe malicieux. Clairement, Zazu et Rafiki du Roi Lion ne sont pas loin. Et c'est pas tout. En fouillant, on s'est rendu compte, quand le Roi Lion est sorti, que Disney avait carrément copié-collé des plans du film du Roi Léo qui était sorti en 66, donc quasiment 30 ans avant. Par exemple, la fameuse scène, vous savez, où Simba voit le fantôme de Mufasa qui lui apparaît pour le guider, c'est carrément du plan par plan du Roi Léo. Idem pour le lion qui est suspendu à la falaise avec son ennemi qui va le laisser tomber, les hyènes qui complotent, tout ça, c'est déjà dans le Roi Léo, 30 ans avant le Roi Lion.
Donc on n'est même pas dans la ressemblance, là on est dans le plagiat.
Absolument, et pourtant, à Disney a eu le culot de tout nier en bloc. Quand le film est sorti, il y a des gens qui leur ont dit, attendez, c'est quand même très ressemblant. Et ils ont dit, non, on n'a jamais entendu parler du Roi Léo pendant qu'on faisait le Roi Lion. C'est ce qu'a dit carrément, avec de l'aplomb, le réalisateur Roger Allers. Mais il y a un hic. Et c'est là que Disney s'est fait avoir. C'est le nom du lionceau, donc Simba dans Le Roi Lion. Quand Le Roi Léo a été publié aux États-Unis, eh ben, il y a eu quelques arrangements dans la traduction parce que des fois ça arrive. Donc en France, Le Roi Léo s'appelle Léo, mais aux États-Unis, dans le manga, il s'appelle Kimba avec un K. Donc là, en fait, Disney a juste changé une seule lettre et ils se sont fait avoir.
Ah, dis donc, ouais, ils sont pas gênés, c'est dingue. Mais est-ce qu'il y a eu un procès alors ?
Ben, c'est là que l'histoire, moi, je trouve qu'elle devient très belle. Il n'y a pas du tout eu de procès. Personne n'a porté plainte contre Disney. Le Roi Lion est sorti dans 94, donc 5 ans après la mort de Samu Tezuka qui avait écrit le manga et réalisé le film. Mais ses ayants droit à lui, donc sa famille, son studio de cinéma qui avait réalisé le film à l'époque, n'ont pas voulu porter plainte contre Disney. Et c'est plutôt poétique. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'Osamu Tezuka était lui-même un admirateur publiquement. Il avait déclaré un grand admirateur de Disney. Il adorait en fait les films Disney. Il a, par exemple, il a regardé Bambi dans son enfance. C'est le film qu'il a le plus ému dans sa vie. Et ça a nourri ses dessins. Il a toujours dessiné des personnages très ronds, très expressifs, un peu enfantins. Beaucoup d'animaux aussi qui parlent. Et ça, bah, finalement, sa famille a estimé que Tezuka, s'il avait vu Le Roi Lion, ce qui avait été fait, bah, il n'aurait pas été vexé du tout que Disney ait plagié, mais très honoré, finalement, qu'ils aient repris son Roi Léo. Et ça, bah, moi, je trouve que c'est quand même une très belle philosophie. Non
Il a même été inspiré par Disney. Quand il a
Exactement, et d'ailleurs, un de ses surnoms, c'est le Walt Disney japonais, tellement il a créé d'œuvres cultes. Et le fait que Disney ait reconnu quand même, au bout d'un moment, ils ont été forcés, les animateurs ont dit, c'est vrai qu'on s'est un peu inspiré du Roi Léo. Il y a eu des croquis qui sont sortis qui montraient qu'à la base, Simba n'était pas un lionceau normal, était aussi un lion blanc. Et là, la ressemblance, elle était frappante.
Mais alors, si je vous suis bien, Clément, vous êtes en train de nous dire qu'il faut réhabiliter le Roi Léo, alors.
Ouais,
l'original.
Exactement, parce que c'est une œuvre qui vaut le détour, notamment car le Roi Léo va beaucoup plus loin que le Roi Lion, hein, dans le manga et dans d'autres portions de films, de dessins animés. Bah, il y a des humains. Il y a des humains dans l'histoire du Roi Léo et ça change en fait fondamentalement énormément de choses dans l'histoire puisque ça devient un espèce de plaidoyer écologique et animalier en avance sur son temps. Écoutez, c'est un extrait du deuxième film.
Écoute-moi bien, mon garçon. Certains hommes sont bons et bienveillants. D'autres, en revanche, détruisent notre jungle sans scrupules et peuvent se montrer très cruels avec nous.
On devrait essayer d'être amis avec les hommes.
Quoi ?
Si on est amis, on pourra alors leur demander de ne pas détruire notre jungle.
Cher petit, j'espère que tu verras naître un tel monde lorsque tu régneras, où les hommes et les animaux vivront ensemble.
Alors là, c'est un beau rêve, hein, ouais. Et ça donne envie de voir le Roi Léo. Le souci, bah, c'est que ça devient de plus en plus difficile de se procurer cette œuvre. Le manga, il faut le savoir, n'est quasiment plus édité. On peut le trouver d'occasion sur Internet, à droite à gauche. Parfois, c'est très cher.
Et puis, avoir un VHS qui marche.
Voilà. le film, pour le coup, le film de 66, donc le film original qui a été copié par Disney, est introuvable de nos jours. Même en DVD, même dans la revente, on ne le trouve plus. Et c'est très dommage. En revanche, je vous conseille voilà, vraiment l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est Léo, le roi de la jungle. C'est un deuxième film qui est sorti en 97, donc juste après Le Roi Lion, qui était une espèce de réponse du Japon à Disney en disant on vous en veut pas, on refait un film qui montre que nos histoires se complètent. Donc ce roi de la, Léo roi de la jungle, on le trouve lui très facilement en DVD, par exemple à la Fnac, vous l'avez, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un beau dessin animé, moi je l'ai revu pour cette chronique, ça m'a beaucoup ému, c'est idéal par exemple si vous avez des enfants, que vous voulez les éveiller à la protection des animaux, à la conscience écologique, etc. La protection de la nature, c'est très beau, et puis en plus voilà, vous ferez une bonne action, vous allez faire vivre une œuvre qui le mérite plus que le Roi Lion, je le défends.
Merci beaucoup Clément Le Saffre. Cyril Leldin, vous avez des enfants ?
Oui.
Vous voulez les éveiller ?
Oui, ils le sont déjà, j'espère.
C'était pour reprendre la phrase de Clément.
Il est fan du Roi Lion.
Ben voilà, le Roi Léo, ça va lui plaire alors.
Ah bah très bien. Alors
ils ont quel âge vos enfants ?
18 et 15 maintenant.
D'accord, donc on ne sait plus tout petit.
Non,
tout
non, mais ils regardent encore, puisque comme l'a dit tout à l'heure Hélène, on a passé nous l'été à se mettre sur le toit d'une maison pour regarder le Roi Lion en douce.
D'accord, ils vont être contents à 15 ans et 18 ans de savoir qu'ils regardent des dessins animés avec leur papa, ils ne vont pas se faire chambrer après, ensuite en classe.
Non, mais on ne le dira pas.
vous savez quoi ? L'année n'a pas commencé, je vous rassure.
On dira que c'est un parallèle, Rocard Mitterrand, Simba Mufasa, voilà, il cherche la reconnaissance du père et tombe sur Scar.
Voilà, l'année n'a pas vraiment encore commencé, c'est un pilote, ça ne sera pas diffusé.
On n'est pas en direct. La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Cyril Eldin sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est la dernière partie de Culture Média avec nous autour de cette table, toujours Clément Le Saffre et Margot Barallon. Et notre invité Cyril Eldin, qui sera à l'affiche à partir du 14 janvier au Théâtre de l'Atelier de la pièce L'opposition Mitterrand contre Rocard, où il joue Rocard.
Dans le dossier de presse de cette pièce, justement, Cyril Eldin, il y a votre présentation évidemment. On raconte votre carrière au théâtre, au cinéma, à la télé. Vous avez joué dans plein de téléfilms, j'ignorais. Vous avez même incarné Noir Baladur. Vous avez joué aussi dans 2 fictions historiques. En revanche, il n'y a aucune trace de votre passage dans les émissions de divertissement, notamment Le Grand Journal, Le Petit Journal et les autres. Pour quelle raison ?
Ah, je ne sais pas.
Bon, voilà.
Pourquoi ? On n'en parle pas ?
Non.
Ah bah c'est dommage, c'est bien de le dire, on va le régler. Voilà. Surtout que c'est lié à la politique aussi.
Vous avez une émission en ce moment sur Canal, racontez
oui.
l'émission.
C'est les reporters du dimanche, c'est à 13h50.
Quelle différence avec La Case en plus que vous faisiez ?
Eh bien c'est que là on est totalement dans la fiction. Donc c'est une fiction qu'on écrit chaque semaine, on se dit qu'on est beaucoup plus libre dans cet exercice, parce qu'on peut dire des choses qui sur un plateau, à chaque fois on se dit tiens le CSA ça passe pas. Là donc on peut mettre un peu d'humour de second degré. Je suis avec David Castello-Lopez qui fait Depuis quand, c'est une chronique qui marche pas mal, où à chaque fois il dit depuis quand existe quelque chose, un objet de la vie quotidienne, depuis quand existent les gens qui disent bonjour.
Hein. Ah oui, c'est vrai, bonjour. Oui.
Hein. Bonjour, hein. Ou depuis quand existe le paintball et tout, on le retrouve avec l'inventeur du paintball, c'est très stylisé, ça met en avant du style. Et puis il y a David Greuze qui est un Belge un peu décalé, qui s'était fait connaître en faisant une chanson, il y a des Martines qui avait cartonné sur internet dans Incroyable Talent, si, qui était... Et puis lui, il va dans les brocantes, il va chez les gens, et puis il parle de sujets d'actualité de la semaine, et on se retrouve dans la fiction. Ça dure 20 minutes, ça marche bien, on s'éclate.
C'est à quelle heure ?
13h50.
Vous avez collaboré de nombreuses années avec Yann Barthès. Avant de prendre tout seul les rênes du petit journal, vous êtes réconcilié ? Ou c'est toujours un peu tendu ?
Ben c'est, on n'a pas pris de nouvelles l'un de l'autre, mais moi je trouve dommage d'être fâché longtemps dans ces milieux-là. Ouais. J'espère qu'on se réconciliera. Il n'y a pas de raison pour l'instant, mais même d'être fâché, je trouve que c'était un peu... idiot, on n'était pas responsable ni l'un ni l'autre de la situation.
Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, il y a eu un incident à l'antenne. En revanche, plus intéressant, vous dites quand on vous a... Il faut expliquer ce qui s'est passé. Yann Barthès était sur Canal+, il a quitté le groupe Canal pour aller sur le groupe TF1 pour présenter l'émission Quotidien. Et c'est vous qui avez récupéré La Case, le petit journal. Mais, en plus de La Case, vous avez récupéré le nom.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur à ce moment-là ? Puisqu'évidemment, vous êtes jugé à l'aune de ce qui préexistait.
Ben oui, non, mais on aurait...
Pourquoi vous avez dit oui ?
Ben, j'ai dit oui parce que j'aime bien partir vers l'inconnu et puis que les choses m'échappent. Alors je trouvais le pari improbable, là, justement, comme mon rapport avec les politiques, je suis à fond dans le présent, dans la situation. Là, il y avait... les éléments pouvaient jouer contre moi sur le papier, ça a été le cas, ça s'est pas forcément bien passé, mais je trouvais... Le challenge intéressant. Après, si c'était à refaire, j'aurais démarré un peu plus tard, j'aurais évidemment changé de nom, mais c'est pas moi qui...
Et peut-être avec plus d'argent,
décidé.
Non ?
Peut-être un poil plus.
Vous aviez à TV Max, c'était en 2017, je me suis retrouvé en première division, alors qu'on était une petite équipe de division d'honneur, il n'y avait pas de décor, pas de budget, je me suis fait complètement couillonner.
J'ai pas dit je me suis fait complètement couillonner parce que j'étais
TV
très
Mag,
heureux de le
18
faire.
Octobre 2017.
C'est-à-dire que... Comment... je me suis fait couillonner. Non, parce que j'y suis encore. Donc, moi, j'y suis bien. J'ai eu des émissions derrière. Là, il y a les reporters, il y a eu La Case en plus.
Ouais.
Ce qu'il y a, c'est que, oui, on s'est retrouvés sur une case où, généralement, on anticipe, on prévoit. C'est des productions qui s'en chargeaient avec qui j'avais travaillé, où on anticipe le coup. Nous, on est partis en vacances, on a trop misé sur l'improvisation. On s'est dit, on va construire l'émission au jour le jour, en y rajoutant un décor et tout ça. Et je me suis rendu compte que tout d'un coup, c'était trop gros et qu'on était parti un peu vert dans le truc.
Ouais.
Voilà.
Attends, dans la même interview, pardon, vous disiez, on me disait oui à des trucs, j'allais pisser, et quand je revenais, je découvrais que le contraire avait été décidé.
Oui,
voilà.
C'était un peu ça.
Maintenant, ça vous fait marrer. On vous a vu avec les politiques sur Canal, vous êtes fait recoiffer par François Hollande, vous avez fait du karaté avec Chantal Joanneau, mais surtout, vous avez fait d'innombrables séquences, notamment du chant avec celui qui est devenu votre ami, qui à l'époque était ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Est-ce que vous le revoyez toujours ?
Non, on se voit peu, parce qu'il est beaucoup plus occupé que moi.
Ça, j'imagine.
J'ai croisé des gens dans son entourage. J'ai vu la première dame, je l'ai croisée l'an dernier. On a fait le point un peu au moment des gilets jaunes, de la situation du pays et tout.
Mais pour le boulot.
Pour le boulot.
Vous n'êtes pas un visiteur du soir.
Ah non.
Alors que
non.
Vous étiez proche à un moment donné. C'est ça que je voulais dire. C'était ça le sens de ma question.
Eh bien oui, écoutez, on se reverra peut-être après son quinquennat ou dans 10 ans. En même temps, moi, je ne peux pas lui reprocher parce que il est quand même président. Donc,
Je ne vais pas vous poser la question là-dessus. Non, deux trucs qui m'ont vraiment étonné. Vous avez été manutentionnaire à Rungis.
Oui.
Vous avez été prof de footing.
Prof de footing.
Ouais, j'ai lu ça, donc c'est pas vrai. C'est vrai que vous avez fait de la figuration grâce à une rencontre dans la rue avec Nicolas Bedos.
C'était avec Guy et c'était pas de la figuration, c'était
super.
Sa première pièce, sortie de scène.
Et je regrette parce que j'ai trouvé ça dans Libé, il y avait Geoffrin qui était là. Les infos de Libé, salut.
Non mais c'est incroyable cette rencontre avec Guy Bedos parce que je l'ai vu dans la rue qui était en train de faire la queue. Je suis allé le voir, je lui ai dit oh, c'est extraordinaire que vous ayez mis en scène des proches, que vous les poussez à faire de la scène tellement j'aime son écriture. On a passé la nuit à discuter ensemble. Et puis un an plus tard, jour pour jour, je le croise dans un théâtre à Neuilly et j'ai dit « Il paraît que vous cherchez un comédien pour la pièce de votre fils. » Et là, il était génial, il s'est tourné, il m'a dit « Mais c'est toi !» Et c'était un an jour pour jour, et j'ai fait donc Cybale, qui était un peu le rôle de
et avec
Nicolas
l'imitation,
dans
et,
Sortie de scène.
Et avec l'imitation. Juste un mot, il y a une réplique qui est très 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 difficile à dire dans votre pièce.
Ah,
dites-la.
Laquelle?
Bah, c'est à vous de me la dire. Quand Rocard s'en va.
Quand il s'en... Ah, la dernière.
Ouais.
Il y a des choses que je savais déjà vous concernant et je n'ai pas été surpris, mais pourtant je ressors de chez vous tout chamboulé, vous avez en vous quelque chose.
Non, pas la dernière, celle où il se barre.
Celle où il se barre?
Ouais.
Ouais, je vois pas.
Cyril Eldin, il nous raconte des super anecdotes hors antenne, voilà. Et je me dis, tiens, c'est, il dit, comment vous rentrez? Vous avez un chauffeur? Et non, il dit, non, comment rentre-t-il?
En
RER. Bon, c'est pas grave. Ah, Cyril Eldin, mais...
C'est pas du tout à la vous fin, c'est pour ça que je comprends pas. Il y a une réplique.
C'est bon, on a compris.
Non, je le dis. C'est qu'à la fin, Mitterrand me dit... Ah bah, excuse-moi. À la fin, Mitterrand me dit, j'espère que vous n'êtes pas en voiture. Je dis, non, je prends le RER, tout va bien. Et en ces périodes de grève, c'est très dur, même en répétition, voilà, de dire cette réplique sans éclater de rire.
Voilà.
Ça va.
Et même à la radio, ouais, ça va. Merci beaucoup, Cyril Eldin. Je rappelle la pièce, l'opposition, Mitterrand-Rocard. Ça sera au Théâtre de l'Atelier à partir du 14 janvier. Et demain, Culture Média évidemment reviendra à 9h. Nous serons avec le producteur nous serons avec le producteur Philippe Tullier et le romancier Laurent Sexic. À demain.
À demain, Philippe Vandel, Anne Romanoff dans un instant pour votre émission Ça fait du bien avec toute sa bande et leurs invités aujourd'hui, Michel Drucker et la youtubeuse Lola Dubini.